9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Éric Toledano.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur en duo avec Olivier Nakache. Vous avez notamment signé succès planétaire d'Intouchable. 43 ou 45 millions d'entrées en Europe. Le sens de la fête, 3 millions de spectateurs, 10 nominations au César. Et je vais citer également Hors Normes, dont on avait parlé ici avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Avec vous, avec nous, Frédéric Pierrot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien. Vous avez vu dans Police de Mai Wen, La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Mais surtout, pour des millions de personnes, vous êtes désormais Philippe Dayan, le psy de la série En Thérapie, le plus gros succès de l'histoire d'Arte. 54 millions de vues, c'est phénoménal. Plus d'un million de téléspectateurs à chaque diffusion des 35 épisodes. Série co-signée par Toledano Nakache, qui revient pour la deuxième saison. Ce sera ce soir le démarrage sur Arte en linéaire. 20h55, les 5 premiers épisodes. Chiffre déjà prodigieux, je les donne, comme ça après on est débarrassé. La saison 2, qui était visible sur Arte.tv, a déjà totalisé 7 millions de vues en une seule semaine. Pareil que pour la saison 1. Elle se situe 5 ans après la première, cette saison 2, qui faisait suite aux attentats du 13 novembre 2015. Comment résumer, Éric Toledano, la situation 5 ans après? Le contexte du Covid, je schématise, a succédé au contexte des attentats.
Absolument. Si le principe de la saison 1, c'était d'essayer de mesurer l'impact des attentats sur la population, et comme disait le créateur de la série, si les failles des personnages révèlent les failles d'un pays, on s'est forcément posé la question au moment de l'arrivée du Covid de toutes les conséquences des jeunes adolescents aux personnes les plus âgées d'avoir à affronter cette incertitude, puisque finalement c'est un grand saut dans l'incertitude qu'on a vécu tous collectivement avec quand même une forme de chimie, c'est-à-dire qu'il y a un révélateur, on est un peu puni, on doit rester chez nous pendant quelques mois, forcé à réfléchir et toutes nos habitudes sont bousculées, il y a des choses qui se révèlent. Par exemple, peut-être certains étaient enfermés dans des relations sociales qui les gonflaient et puis d'un coup ils en sont libérés, mais d'autres peuvent pas aller voir leurs parents qui sont en EHPAD, d'autres il y a des enterrements qui se passent en catimini, tout est bouleversé, donc forcément le déclic est là avec Olivier et on en parle avec Frédéric, on se dit il y a vraiment matière à continuer.
Alors la matière, ce sont les personnages, que c'est une série. Dans cette deuxième saison, il y a de nouveaux personnages. Frédéric Pierrot, vous êtes le point central, nodal. Est-ce que vous pouvez présenter les nouveaux personnages? Qui sont-ils? Qui sont-elles?
Alors dans l'ordre, ayez Aïdara, interprète une avocate, qui a eu affaire à Dayan longtemps avant, et qui est d'origine malienne, je le précise, parce qu'Eye est d'origine malienne, et je trouve très intéressant d'avoir choisi comme ça un personnage dont la culture d'origine, enfin anciennement, vient d'ailleurs. Ça rend les épisodes absolument passionnants.
Et ça, c'est un choix politique parce que c'est le premier personnage du premier épisode.
Exactement.
Voilà. Et vous ne la mettez pas dans une situation vous la mettez dans une situation d'avocate.
Voilà, on la voit dans sa vie.
On parle beaucoup de la diversité ici. On dit qu'on a rarement des personnes, des minorités visibles dans des postes de haut rang. Eh bien, c'est le cas dans votre série.
Absolument.
Les autres personnages?
Les autres personnages. Suzanne Lindon interprète une jeune femme atteinte d'une maladie très sérieuse. Mm-hmm. Ensuite, vous avez Jacques Weber, qui est un chef d'entreprise, qui pourrait être une espèce de caricature d'un tapis, d'un mec surpuissant, qui est chez lui partout, un homme de pouvoir. Quoi.
Moi, j'ai pensé au patron d'Orange. Vous savez pourquoi?
On a chacun nos.
Mais je veux dire pourquoi, c'est très simple. C'est parce que Orange, l'opérateur téléphonique, a subi une vague de suicides à l'intérieur même de son entreprise.
Ah, oui.
Et le patron était extrêmement déstabilisé par cette vague de suicide.
Oui, absolument.
Il a une histoire qui le
similaire,
un shitstorm à cause du suicide d'une de ses employées.
Pendant le confinement.
Et se sent-il coupable ou non? Et c'est la raison pour laquelle il vient vous voir. Au départ, il veut même vous faire travailler. Finalement, vous dites non. Il est incarné par Jacques Weber. Il joue Alain Abgral. Et il veut vous entendre pour parler davantage communication que psychanalyse.
Je gère une société de 4000 employés qui ont tous travaillé comme des chiens pendant le confinement en télétravail. Et on n'arrêtait pas d'avoir des commandes, fours, machines à pain, électroménagers. On aurait cru que tout le monde était boulanger pendant cette épidémie. Enfin, bref. Donc, Myriam Kadi a travaillé chez elle pendant le confinement, elle n'a pas supporté la pression. Ça ne s'arrêtait pas, c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'était des horaires intenses. Et la semaine dernière, elle s'est jetée par la fenêtre de son appartement.
Je suis désolé.
Bah, merci.
J'adore ce petit détail sonore, le téléphone qui fait ding. Il vient parler du site d'une employée, il n'arrive plus à dormir, mais quand même, son téléphone est allumé.
Oui, et c'est très représentatif des premiers épisodes de la saison 1 aussi. C'est arriver avec ses valises, ses bagages, sa volonté d'immédiateté et cette non-connaissance du rituel qu'est, finalement, que sont les séances. C'est-à-dire qu'à un moment, on laisse un peu les choses au dehors et on rentre dans l'introspection. Mais dans les premières séances, on voit encore le dehors qui est là. Et ça, c'est très intéressant pour nous.
Comment vous avez travaillé avec les scénaristes et les situations? Parce que c'est toute une équipe. D'abord, c'est une série israélienne, voilà, Beauty Pool. Voilà. Et ensuite, vous avez changé vos équipes d'auteurs. Oui. Reste Nakash Toledano et Frédéric Pierrot. Comment vous avez travaillé sur les situations? Par exemple, Orange, vous aviez pensé à ce contexte ou pas du tout?
On a compilé pendant le confinement tout un tas de situations qui étaient intéressantes à révéler. Bon, par exemple, Ayé va raconter à un moment qu'elle se met sur Tinder et qu'elle va essayer de rencontrer quelqu'un, mais qu'elle peut aller qu'au supermarché pendant le confinement. Ça a été mis de côté, vous voyez. Quelqu'un vous raconte qu'il n'a pas pu aller voir son père en EHPAD et pas lui dire au revoir. C'est mis de côté. Toutes ces situations sont mises de côté. On voit les scénaristes, on crée des situations et on avance.
Vous voyez, les scénaristes et Frédéric Pierrot, puisque j'ai appris en préparant cet entretien, que vous avez travaillé à l'élaboration, sinon des scénarios, mais du texte.
Oui, c'est beaucoup dire. Non, j'interviens, j'ai un regard dessus, mais c'est
Attends,
Clémence.
Vous avez raconté à Télérama avoir appelé votre maman après une séance de travail avec les scénaristes, vous étiez furieux, vous n'avez pas réussi à raconter, parce que c'est savoureux, c'est mieux que ce soit vous que moi qui raconte.
Non, mais ma mère, mais en effet, j'étais, parce que je suis très ardent dans le travail, c'est-à-dire quand j'ai un truc qui est là et une idée dans la tête, mais je suis aussi très seul.
Ouais.
Vous voyez, mais c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien. Bon, et ce soir-là, j'appelle mes parents et j'explique un peu le tourment que j'avais sur ce truc que j'arrivais pas à faire passer et tout. Et ma mère me dit, mais enfin Frédéric, tu fais pas un documentaire. Je lui dis, mais maman, je ne fais pas de différence entre fiction et documentaire. Pour moi, c'est la même chose. C'est du cinéma et on a évidemment le désir de jouer pour de vrai.
Nous, on avait un luxe phénoménal avec Olivier, et puis avec chacun des réalisateurs, c'est qu'on a demandé à Fred de se mettre un peu de se libérer un peu avant, et en fait, on a lu toutes les premières versions ensemble. Mm-hmm. Ce qui fait que chacun a donné son ressenti.
Excusez-moi, on ne fait pas ça pour chaque film? Ou est-ce qu'on fait des lectures, mais sans que les comédiens puissent intervenir dans les textes?
C'est-à-dire qu'on est dans une saison 2 où il a incarné pendant 35 épisodes de l'intérieur un personnage. Et à ce niveau-là d'incarnation, il est intéressant d'avoir le point de vue de celui qui est à l'intérieur. On le fait souvent, mais c'est rare que les personnes aient déjà 35 épisodes derrière eux.
Sauf pour Manam et Servi. Je ne sais plus combien d'épisodes il y avait. C'est le principe d'une série, c'est la différence avec le cinéma.
Un tout petit peu moins sur la psychanalyse, Manam et Servi.
Vous avez tellement raison. On a parlé des 5 personnages.
Il en manque
4.
Il manque.
Mais voilà. Vous savez quoi? C'est ce qu'on appelle un teaser. Il en manque un, dit Frédéric Pierrot. Que joue Charlotte Gainsbourg? Réponse juste après ça. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Frédéric Pierrot, le comédien, c'est Philippe Dayan, le psychanalyste dans Thérapie, réalisé, co-réalisé et pensé par Olivier Nakash et Eric Toledano qui est avec nous. Nous parlions des personnages. Il en manque 2 pour comprendre cette saison, Frédéric Pierrot.
Alors, il manque Alyosha Delmotte. Et vous voyez, on dit personnage, je nomme l'acteur, c'est déjà quelque chose. Alyosha, qui est un jeune homme... qui est en léger surpoids et qui a des emmerdements sérieux, à la fois à l'école et puis avec le divorce de ses parents.
Voilà. Et il vient vous voir parce que ce sont ses parents qui le font venir. Parce qu'on peut se demander ce qu'un garçon de cet âge fait dans le cabinet d'un psychanalyste. Et alors ce qui est vraiment intéressant, et là on va arriver au cinquième personnage, c'est lorsque les épisodes se répondent. Dans le cinquième épisode, Philippe Dayan a un souci, il rencontre sa superviseuse qui est incarnée par Charlotte Gainsbourg. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une superviseuse? Ça existe pour de vrai?
Absolument, absolument. C'est une sorte de contrôle, c'est... Beaucoup de psys vont voir un autre psy pour, dans un exercice de contrôle et de supervision pour parler de leur pratique, de leur patient et pour continuer à être dans une forme de pratique et de réflexion.
C'est dans l'exercice lacanien ou est-ce que ça fait partie ou lacanien ou freudien ou est-ce que ça fait partie de la loi française?
Non,
il faut qu'un psy ait une superviseuse.
C'est pas une loi, c'est une règle.
D'accord.
Et c'est une règle de bon sens, c'est-à-dire qu'ils affrontent quand même des gens qui peuvent être extrêmement troublés et troublants. Et donc, c'est une façon de vérifier qu'il reste dans le cadre.
Voilà. Donc Philippe Dayan rencontre sa superviseuse, elle est incarnée par Charlotte Gainsbourg, et cela fait lien avec l'épisode avec Jacques Weber, qui jouait, je le rappelle, un chef d'entreprise à moitié en panique.
J'ai reçu un type hier, une de ses employées s'est jetée par la fenêtre pendant le confinement, sans doute harcelée de travail. Et quand je l'ai vue, j'ai pensé, ce type va se jeter par la fenêtre, lui aussi. Voilà ce qui m'est venu. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut?
Vous parlez vous-même de suicide? Vous pensez qu'il a des pulsions suicidaires?
On ne peut pas encore l'affirmer. C'est un sentiment que j'ai eu à la première séance. J'ai une nouvelle patiente, s'appelle Lydia. Elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein. Elle est terrifiée, en plein déni. Elle ne l'a dit à personne. Ni à sa famille, ni à ses amis. À personne, sauf à moi. Elle dit qu'elle ne veut pas faire de chimio. Elle doit avoir ce fantasme inconscient que si elle ne suit pas de traitement, elle n'a pas de cancer.
Vous l'avez convaincue?
Je ne crois pas qu'elle soit prête à l'entendre. Et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là. Si c'était ma fille, je la prendrais par le bras et je la traînerais jusqu'à l'hôpital.
Et là, c'est la question, l'enjeu, sinon de cette saison que je n'ai pas vue, mais les 5 premiers épisodes que j'ai vus. Ce qu'on fait pour sa famille, est-ce qu'on le fait pour ses patients? Je vous pose la question, docteur.
Eh bien, non. Non. D'ailleurs, on est souvent très maladroit dans sa propre famille, non?
Oui, évidemment.
Voilà.
Mais non, moi, non. Je ne suis pas psychanalyste, je ne sais pas comment ça se passe pour les psys. Mais c'est le syndrome du sauveur que vous racontez, que vous mettez en scène, en exergue.
Oui, oui, absolument. On questionne la responsabilité. C'est une saison qui questionne la responsabilité. Et jusqu'où va la responsabilité d'un psy? Alors, je ne dévoile rien si je dis qu'il est aussi attaqué en justice par un ancien patient qui était joué par Reda Kateb dans la saison 1, qui est Shiban. Et donc, il va y avoir aussi une mise en abîme de ce que peut être justement l'interrogation de jusqu'où va cette responsabilité? Jusqu'à la porte du cabinet ou plus loin? Voilà, c'est un peu la...
On parlait de la guerre tout à l'heure avec le rédacteur-chef de Philosophie Magazine. On peut dire pour quelle raison meurt ce patient incarné par Reda Kateb, c'est qu'il parle faire la guerre contre Daesh auprès des Kurdes.
Voilà, exactement.
Et sa famille veut attaquer en justice le psy comme s'il y avait un défaut.
Oui, comme s'il aurait peut-être pu avertir les autorités. C'est pour ceux qui ont vu la saison 1, c'est Reda Kateb, c'est un ancien agent de la BRI qui est rentré au Bataclan, donc qui a été fragilisé dans un moment comme ça, est allé voir un psy. Et d'ailleurs, dans la saison 1, Dayan lui disait que c'est une période où il ne faut pas prendre de décision quand on commence une thérapie, de décision hâtive comme ça, comme quitter sa femme. Ou comme...
C'est ce que demandait Freud à l'époque. Les cures de Freud étaient beaucoup plus courtes que celles de maintenant. C'est quelques mois. Et la prescription de Freud, c'était d'éviter que quelques décisions importantes soient prises pendant ce temps-là.
Votre notoriété est absolument incroyable, Frédéric Pierrot. La vôtre était déjà établie, Toledano, mais Frédéric Pierrot, vous avez vécu ce succès. Je ne vais pas vous demander comment vous l'avez vécu. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette info que j'ai entendue qui montre ce niveau de notoriété qui est désormais le vôtre et le succès inouï de la série. Il y a des gens qui voulaient entamer une psychanalyse, mais avec vous, Frédéric Pierrot, comme psychanalyste.
Eh bien ça serait impossible.
Ça vous a amusé? Ça vous a stupéfait?
Oui, un peu. Ouais. Ça prouve qu'il y a encore à expliquer pourquoi ça ne serait pas possible. C'est qu'il y aurait trop de projections, vous comprenez?
Bien sûr.
Je ne pourrais absolument pas ouvrir un cabinet.
Et il y a un télescopage extraordinaire avec l'actualité. Je ne m'attendais pas à poser cette question là, aujourd'hui. Si on avait fait la même interview il y a 2 mois, je ne l'aurais jamais dit. C'est qu'il y avait un comédien qui incarnait un faux président dans une série télé, et maintenant il dirige l'Ukraine. Qui est Zelensky. Il joue le président et il semble meilleur que beaucoup de présidents. Il force l'admiration du monde entier, Éric Toledano.
Moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui me fascine, en tout cas dans le métier que nous on fait, c'est que le fil entre la fiction et la réalité est de plus en plus mince. Et c'est vrai que Zelensky, c'en est un exemple fou. D'ailleurs, je pensais, moi, naïvement, avec tout ça, je me disais, s'il s'en sort et s'il n'est pas, il n'a pas une fin tragique, ce que je crains malheureusement comme beaucoup, mais bon, en ce moment, il a peut-être un peu plus de force. Qu'est-ce qu'on racontera de lui? C'est-à-dire qu'il y aura aussi une fiction sur tout ça, c'est-à-dire de là où il est parti et là où il est arrivé.
Il me reste plus qu'une seconde. Trois. Est-ce qu'il y aura une saison 3?
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Alors moi non plus. Merci Éric Toledano. Merci Frédéric Pierrot. Je rappelle,
merci
en thérapie.
Vous.
Avec cette musique absolument sublime de Yuxek.
Ouais.
La saison 2, chaque jeudi sur Arte à partir de ce soir à 20h55. Et si vous avez la flemme d'attendre, les 35 épisodes sont en ligne sur arte.tv. Il y en a pour 6 mois. Pas la peine de se dépêcher. Merci encore d'avoir été avec nous.